Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, heureux de vous revoir. Alors, je suis seul ce matin, on est tous dans le Grand Nord, la région d'où je viens. Elle aurait été contente d'être aussi avec nous, mais vous la verrez une prochaine fois quand je reviendrai. J'aurais voulu méditer ensemble avec vous sur le sujet de la conversion. La conversion, c'est une base, c'est essentiel. Nos assemblées seraient être des assemblées de convertis. C'est la grande différence avec les églises de multitude. Des églises où on baptise, par exemple, les enfants, pour grossir les rangs des registres officiels. Mais ça n'a plus grand rapport avec l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est une église composée de convertis. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces églises qui, normalement, se veulent être des églises de convertis dans certains pays, où elles sont devenues tellement grandes, elles sont mêlées avec beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément converties, quoique baptisées officiellement, selon les règles bibliques, à l'âge adulte, et l'Église se fourvoie souvent même avec la politique ou d'autres choses de ce genre. Tant quand une église parfois gonfle artificiellement, elle perd de sa vérité. Et le fondement pour nous tous, c'est que nous soyons vraiment convertis à Dieu pour former l'église de Jésus. Amen. Alors on va revoir cela, et notamment par le biais de la conversion des Thessaloniciens. Alors on le lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, alors si je sais qu'aujourd'hui on est à l'heure du numérique, mais essayez de venir avec votre Bible, c'est tellement mieux de lire dans l'écriture, et surtout parfois il y a des passages qui vous viendront en tête pendant la prédication, vous pouvez vous y référer, cette parole est essentielle pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 1er versets 9 et 10, on peut lire ensemble. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Donc la conversion des Thessaloniciens n'était pas passée inaperçue. On en parlait. On racontait comment, dans le ministère de l'apôtre Paul, en cette ville, il y a eu une série de conversions à la gloire de Dieu. Que Dieu fasse encore les mêmes choses par son esprit. Que des personnes soient bouleversées et qu'elles soient ainsi sauvées par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, avant d'aller plus loin dans ce passage, on va aller dans Actes chapitre 17, parce que c'est raconté, c'est ce récit de la conversion des Thessaloniciens. Alors, Actes chapitre 17, et on reviendra après à notre passage de base. Actes chapitre 17, versets 1 à 9. Actes 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats, trois semaines, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Retenez cette expression, craignant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens ont bouleversé le monde, qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Amen. La suite, c'est ce qui se passera en Bérée. Alors voilà comment les Thessaloniciens se sont convertis. Voyons déjà par quoi, quelles ont été les bases de leur conversion. D'abord l'Écriture. Quand Paul entre dans la synagogue, il nous est précisé qu'il discuta d'après les Écritures avec les Juifs. La conversion des Thessaloniciens repose sur l'Écriture. Il n'y a pas de conversion sans la parole de Dieu. Je suis étonné parfois de certains chrétiens qui peuvent dire « Je suis au Seigneur, mais je ne crois pas vraiment tout ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des passages de l'Ancien Testament dont je doute de l'authenticité. Toute l'Écriture est la parole de Dieu. » Et la conversion repose sur cette parole. Il n'y a pas de possibilité d'être sauvé sans croire Dieu, sans croire sa vérité. Donc d'après les Écritures. Ensuite, il a établi que Jésus est le Christ. La conversion à Dieu passe par la foi en Jésus-Christ. Et c'est toute la différence d'une croyance que vous pouvez avoir en Dieu. On peut croire en Dieu depuis son enfance sans être converti. Qu'est-ce qui fait la différence entre un catholique qui croit en Dieu depuis qu'il est enfant et un chrétien? C'est que le chrétien a fait l'expérience d'une conversion. Et la conversion, c'est sortir de sa religion. La conversion, c'est sortir de sa croyance d'enfance pour vraiment se tourner vers Dieu par Jésus-Christ. C'est croire en Jésus-Christ. Alors, c'est peut-être plus difficile parfois pour les enfants chrétiens dans nos assemblées, qui certains d'entre eux peuvent croire depuis leur jeune âge, mais il n'empêche pas moins qu'il leur est nécessaire à eux aussi de passer par la conversion. La composition de cette église de Thessaloniciens est intéressante. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu trois catégories, des juifs, quelques-uns, pas beaucoup. Les juifs étaient durs et difficiles. Les juifs, beaucoup de grecs craignant Dieu, et des femmes de distinction, des femmes assez aisées, des femmes éduquées. Les craignant Dieu, qu'est-ce que c'est? Les craignant Dieu, c'est une expression dans les Actes des Apôtres qui nous parle d'étrangers qui avaient embrassé la religion juive. Les craignant Dieu étaient des Grecs, c'est-à-dire des habitants de ce pays, qui allaient à la synagogue. Et c'est à la synagogue qu'ils ont entendu l'évangile, puisque Paul s'y rend pendant 3 semaines pour y discuter d'après les Écritures afin d'y établir que Jésus est le Christ. Les craignant Dieu, c'était donc des sympathisants des synagogues. Ils s'étaient fait juifs sans être juifs. Ils suivaient la religion des Juifs. C'était ça un craignant Dieu. Et là, ils entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et se convertissent. Voilà pour la composition de ces chrétiens. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que les Juifs ont besoin de se convertir. Parce qu'ils se sont convertis eux aussi. J'entends parfois dire que les Juifs n'ont pas besoin de se convertir, comme s'ils seraient une classe à part. Mais quand l'apôtre Pierre prêche à la Pentecôte, convertissez-vous, il s'adresse à qui? À des Juifs. Donc les Juifs ont besoin de se convertir. Un Juif sans Jésus-Christ est perdu. On ne peut être sauvé qu'en Christ. Mais les adeptes de religion, comme les craignants Dieu avaient pris comme religion le judaïsme, ben, ils ont dû se convertir aussi. Ce n'est pas une religion qui sauve. Vous avez besoin de vous convertir au-delà de la religion. Là. Nous ne sommes pas des évangéliques. Nous sommes des chrétiens. Ce qu'on me demande... Moi, je ne suis pas converti à l'église évangélique. Comme les craignants Dieu, eux étaient, entre guillemets, convertis à la synagogue. Moi, je ne suis pas converti à l'église évangélique. Je suis converti à Dieu. Par Jésus-Christ. Alléluia. et nous ne devons pas devenir une religion. C'est le grand danger des églises évangéliques aujourd'hui. C'est qu'alors qu'elles étaient dissidentes des églises de masse, elles deviennent aujourd'hui reconnues dans notre société et à son tour, elles peuvent devenir une religion. Nous sommes, Israël était aussi dans cette configuration dans l'Ancien Testament. Chanter des cantiques. Ils allaient en foule au temple, mais que de fois les prophètes les a interpellés pour qu'ils reviennent vraiment au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un reste en Israël, un reste qui vraiment suivait le Seigneur. Les autres faisaient de la religion. Faisons la différence entre une vie religieuse et une vie de personnes converties. Alors, convertir à qui? Convertir à quoi? Convertir à Dieu. Se convertir à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, dans le mot, c'est se tourner vers. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. C'est-à-dire vivre pour Dieu. C'est ça, c'est une image, c'est imager, se tourner vers. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, c'est vivre pour lui maintenant. C'est tourner le dos à une vie vécue pour soi, beaucoup, ou pour sa famille, mais pour soi. Et à un moment donné, quand on se convertit, on décide maintenant, pas seulement de croire en Dieu, mais de vivre pour lui. Ce qui est complètement différent. Vous pouvez vivre pour votre famille et croire en Dieu. Vous pouvez vivre pour votre travail et croire en Dieu. Vous pouvez vivre pour vos passions et croire en Dieu quand même. Mais quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Et qui a une famille, qui a un travail, qui peut avoir des loisirs, pas de passion. Mais il vit pour Dieu. Et c'est là toute la différence entre croire en Dieu et se convertir à Dieu. C'est plus qu'une expérience avec Dieu. Certains ont pris leur baptême en disant « Le Seigneur m'a guéri ». Non. Se convertir, c'est plus que d'être guéri. J'ai entendu aussi des témoignages du style « J'ai demandé au Seigneur d'avoir le bac, je l'ai eu, alors je prends mon baptême ». Se convertir, c'est plus que d'avoir eu le bac. Ça semble une évidence, hein? Se convertir, c'est plus qu'une expérience émotionnelle aussi. Et là, c'est un peu plus délicat. J'ai vu parfois de nombreux jeunes dans des camps de jeunes où il y avait une ambiance avec de la musique, où on amenait les jeunes à une expérience émotionnelle, très forte, très intense, très vive. Et les jeunes sont revenus, ils ont pris leur baptême, mais en fait, leur vie a démontré qu'ils ne s'étaient jamais convertis. Ils ont été, comme on dit, touchés par le Seigneur. Mais la conversion, c'est plus que d'être touché par le Seigneur. La conversion, c'est plus que de faire une expérience même très vive, mais qui n'est que émotionnelle. La conversion, c'est vraiment se tourner vers Dieu de tout son cœur et en porter les fruits. C'est pour cela qu'il faut faire attention de faire la différence entre une œuvre psychique et une œuvre spirituelle. La conversion doit être profonde. Ça, c'est la parabole des quatre terrains. Vous vous rappelez, quand la semence est dans une terre, la terre où il y a des pierres, la semence grandit vite, mais elle est vite séchée par le soleil. Dès qu'il y a un temps d'épreuve, et il est dit de ces personnes-là qu'ils ne croient que pour un temps. Si on se convertit par intérêt, ça n'ira pas loin. Si on se convertit au Seigneur pour que son mari se convertisse, pour que votre épreuve s'arrête, pour que vous alliez mieux, que vous soyez en bonne santé, heureux et riche, qui ne veut pas être en bonne santé, heureux et riche? Mais si on se convertit pour cela, on va être déçu. Vous savez, un jour, quelqu'un a interpellé Jésus, il a dit « Maître, mon frère ne veut pas me donner l'héritage !» Il dit « Mais qui m'a établi notaire ?» juge pour ces choses. Jésus n'est pas un notaire, Jésus n'est pas un banquier, Jésus n'est pas un magicien. Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu. Il est venu pour beaucoup plus qu'à chaque fois par un truc baguette magique. nous donner tout ce que nous lui demandons. Nous ne devons pas nous convertir par intérêt personnel. Et parfois, Dieu permet que nous passions par des épreuves très difficiles, où nous perdons parfois même un enfant, ça arrive à des chrétiens, que nous perdons aussi un travail, un prestige. Parfois, on peut perdre des repères et se trouver en grande difficulté. Et là, nous sommes tentés de dire, si c'est pour ça, Seigneur, que je te suis, alors je suis déçu. C'est pas pour ça que je me suis converti. Alors c'est pour quoi? C'est pour qui? Vous vous rappelez de l'épreuve de Job, quel a été le but? Ça a été de montrer au diable que Job aimait d'une façon désintéressée Dieu. Amen. Et dans notre vie, d'une façon globale, générale, toutes nos épreuves ont ce but, c'est de nous détacher de nos intérêts personnels pour nous amener aux intérêts de Jésus-Christ. Quand nous nous sommes convertis, je pense que nous ne mesurions pas que le plan de Dieu, c'était de nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est ça son plan. Son plan, c'était pas que tout aille bien pour nous. Mais dès le départ, son plan, c'était que nous ressemblions à Jésus-Christ. Et pour ressembler au Seigneur, il nous faudra passer par les mêmes épreuves que lui. Et être amené sur un tout autre terrain que sur lequel nous aimerions parfois nous trouver. Si vous êtes dans l'épreuve actuellement, je vous demande de faire une chose. Ne dites pas, Seigneur, enlève-moi l'épreuve. Mais plutôt, Seigneur, transforme-moi dans cette épreuve. Pour que je puisse ressembler à ton Fils. Alléluia. Et ça, c'est la belle liberté. On est plus libre de cela que d'être libéré de l'épreuve. La conversion débouche sur le service de Dieu immédiatement. Nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens. On raconte à notre sujet comment vous êtes converti en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir. C'est-à-dire que c'est immédiat, c'est tout de suite que nous pouvons travailler pour le Seigneur. Et quelle grâce! Quelle grâce d'être au service du Maître! Quelle grâce d'avoir été sauvé, sanctifié et d'avoir la possibilité de servir ce Dieu avec lequel nous devions nous réconcilier. C'est un privilège. Donc la conversion, c'est le début d'une consécration de toute notre vie au service de Dieu. Je ne crois pas, parfois on dit, il faut que tu aies pas seulement Jésus comme sauveur, il faut aussi que tu l'aies comme Seigneur. Mais ça c'est faux. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir Jésus sauveur sans Jésus Seigneur. D'un point de vue de l'Écriture, quand on croit en Dieu par Jésus-Christ, Jésus-Christ devient notre sauveur et Seigneur. On ne prend pas l'un et on délaisse l'autre. Dès qu'on est sauvé, on est au service du Seigneur. Gloire à Dieu. Un service pour lui. Alors, à sujet de ce service, on va lire deux textes. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Alors, on connaît bien ce passage, mais je vous attends si vous voulez trouver la référence. Éphésiens 2, 8 à 10, même si elle est affichée, chacun fait comme il peut faire. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà ce que dit l'Écriture, sauver pour servir. Dieu a un plan pour nous. Il a des œuvres préparées d'avance. Mais afin que nous les pratiquions, Dieu peut préparer quelque chose et que nous passions à côté. Il y a un moment donné dans ma vie où j'ai lu ce passage et vraiment, j'ai compris, c'est comme si le Seigneur me disait, tu sais David, j'ai prévu des choses pour toi, j'ai prévu des choses pour que tu me serves. Mais toi, est-ce que tu voudras bien entrer dans ces choses? Tu voudras bien les pratiquer? Quand on se convertit, c'est pour servir le Seigneur et entrer dans son plan. Amen. Quelle est aujourd'hui dans votre vie, quelle est la place pour le service de Dieu? Est-ce que le culte du dimanche matin, c'est tout notre service pour Dieu? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus dans votre vie à mettre au service du Seigneur? On peut lire dans Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Alors, quand il est dit des œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions, je vous déconseille d'attendre dans la prière que dans un songe, Dieu vous montre tout ce que vous devez faire. Mais tout ce que trouve ta main à faire, fais-le. Amen. Si dans l'église il y a des besoins, si il y a un mur à repeindre, je suis là, toujours prêt pour servir le Seigneur. Il y a autre chose à faire, voilà. Il y a des personnes qui ne veulent que faire des choses publiques, prêcher ou chanter sur l'estrade. Mais par contre, pour toutes les autres choses, elles ne seront jamais là. Savez-vous comment, à l'école dans laquelle j'ai évolué, c'est que quelqu'un qui voulait servir Dieu, la première des choses auxquelles on regarde, c'est par exemple s'il range les chaises, s'il passe un coup de balai. Parce que le plus important dans le ministère même pastoral, c'est pas la compétence, mais c'est l'esprit de service. S'il n'y a pas l'esprit du serviteur, il ne peut pas y avoir d'autre chose. Et je crois que c'est ça, quand on se convertit, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Moi, je veux tout ce que je peux faire pour le Seigneur, je veux le faire. Alléluia. Donc dans Tite, chapitre 2, verset 14, il est dit ceci, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Quand on est converti, donc on ne s'appartient plus à soi-même, il est dit de se faire un peuple qui lui appartienne. Nous avons été rachetés. La rédemption, le rachat, évoque à l'époque la situation des esclaves. Sur le marché des esclaves, le maître passait et les rachetait. Être racheté, c'est pas seulement « Merci Seigneur, je suis sauvé ». La conséquence de notre rachat, c'est que notre vie, elle est à Dieu. Mais c'est bien plus qu'un maître, c'est un peuple. Alléluia. Racheté par lui, pour que nous lui appartenions, et non pas plutôt au service de nos intérêts. La religion, c'est que Dieu nous serve. La conversion, c'est servir Dieu. Elle se vérifie par l'abandon aussi dans ce passage de 1 Thessaloniciens. En abandonnant les idoles. On ne peut pas se convertir à Dieu sans porter les fruits dignes de la repentance. C'est impossible. Des conversions qui laissent les gens dans leur état sans changement ne sont pas des conversions. Mais alors, on n'a pas le droit de juger. Parfois, on dit toujours qu'on n'a pas le droit de juger. Vous savez, quand l'Écriture dit « ne jugez point afin que ne soyez point jugés », ce sont des textes qui disent qu'il ne faut pas condamner. Par contre, il y a bien d'autres textes qui nous demandent d'avoir du jugement dans le sens du discernement. Nous devons juger dans le sens de discerner, mais nous n'avons pas le droit de juger dans le sens de condamner. Que Dieu nous donne cet équilibre aussi. Hein. Et donc il y a des conversions qui sont fausses, parce que manifestement, elles n'ont apporté aucun changement dans la vie de ces personnes. Nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Ils ont abandonné. Quand je me suis converti, j'avais les cheveux jusque-là, j'avais la boucle d'oreille, j'avais mes posters, j'avais toute la panoplie du bon païen. Et quand je me suis converti, ben, j'ai coupé les cheveux, même si aujourd'hui il y a des groupes chrétiens où on se demande tout est renversé maintenant. Je me suis coupé les cheveux. Je me suis habillé différemment. J'ai parlé différemment. Etc. etc. Fruit digne de la repentance, c'est se débarrasser du tabac. Je suis effaré aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens qui fument dans les églises. Ça ne glorifie pas Dieu. Quand on se convertit, il y a des choses que nous devons cesser. Des choses que nous devons nous séparer pour glorifier Dieu. Ce que je vous dis ce matin, je ne vous le dis pas pour vous faire du mal. Hein. Parce qu'il faut, je crois, que nous avons baissé la barre. Et nous avons besoin de revenir à une œuvre de Dieu profonde dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos assemblées. Nous voulons changer pour glorifier Dieu. Amen. Nous voulons avoir, on va dire, ouais, mais c'est que l'aspect. Je suis désolé, mais moi j'avais un style qui rappelait ce qu'était ma vie. Et quand je me suis converti, j'ai changé de style. Alors, chacun sa vie comme il le conçoit, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Donc il y a des choses qui ne se feront plus, qui ne se diront plus. La grossièreté. Je pense que quand on est converti, on est gêné de notre langage. Vous vous rappelez? Quand vous vous êtes converti, vous disiez des mots presque à chaque phrase. Et puis tout d'un coup, quand vous êtes converti, vous avez commencé à vous entendre. Mais oh, ça j'ai pas le droit de dire ça. Et ça non plus. C'était difficile un peu au début. Et si vous étiez dans une assemblée qui avait des bases, c'est le privilège que j'ai eu, à l'occasion, gentiment, sans jugement, sans condamnation, avec jugement de discernement, mais sans jugement de condamnation, des fois les personnes disaient David. Non, ça se dit pas ce mot-là. Eh oui, parce que quand on est converti, on est tourné vers Dieu. Et quand on est tourné vers Dieu, sa lumière nous éclaire. Sa face nous éclaire. Alléluia. Et il y a des choses que nous faisions, que nous disions, que nous pensions, qui ne nous gênaient pas du tout. Mais notre conscience a été éclairée. Alléluia. Et les choses. Et c'est une grâce, même si ce matin, peut-être, pendant cette prédication, un chrétien, une chrétienne, se dire, mais ça, dans ma vie, ça ne va pas, en fait. Mais c'est une grâce que Dieu nous éclaire. Il ne faut pas le vivre mal, il ne faut pas le prendre mal. Au contraire, à chaque fois que le Seigneur me dit, mais ça, c'est pas bon, ça. Là, il y a de l'orgueil, là, il y a de la méchanceté. Alors, c'est vrai, moi, comme vous, je suis déçu, oh non, encore. Mais en même temps, merci Seigneur, tu m'éclaires, tu continues de me sauver. Vous savez qu'il y a trois temps au salut. Le passé, nous avons été sauvés. Le présent, nous sommes sauvés. Et le futur, nous serons sauvés quand Jésus reviendra. Alléluia. J'ai été sauvé. Et Dieu continue de me sauver. Merci Seigneur. Alors, elle se vérifie donc par l'abandon de nos passions. Et enfin, la conversion, c'est attendre Jésus. Pour attendre Jésus, son Fils. Le Dieu, de quel Dieu s'agit-il? Parce que se convertir à Dieu, peut-être un musulman dira, mais moi je suis converti à Dieu. Non, dans la Bible, on ne peut pas être converti à Dieu sans son Fils. Comment vous êtes converti à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai? Il n'y en a qu'un seul. Comprenez, dans le contexte, les gens étaient idolâtres, les faux dieux existaient. Et Paul dit, comment vous êtes converti pour servir le Dieu vivant et vrai? Écoute Israël, le Seigneur l'Éternel est un. Il y en a un seul. Alléluia. Le Dieu vivant et vrai, c'est le seul vrai Dieu. Mais il y a Dieu et son Fils. Et pour attendre des cieux, son Fils. La conversion, c'est à Dieu et en Jésus. On va peut-être terminer ce message avec quelques passages qu'on lira dans l'évangile de Matthieu, vous voulez bien. J'ai intitulé ce dernier point « La conversion dans l'enseignement de Jésus sur le royaume ». Jésus est venu parler du royaume de Dieu. Et c'est très vaste ce thème du royaume de Dieu. Alors on va prendre seulement ce que Jésus a dit quant au royaume au sujet de la conversion. On lit quelques passages. Matthieu chapitre 13, versets 44-46. Matthieu 13, 44-46. Donc après avoir vu la conversion des Thessaloniciens, on va lire quelques passages sur la conversion dans l'enseignement du royaume. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Amen. Quelle belle parabole sur la conversion. C'est la découverte. C'est la découverte du plus beau diamant. C'est la découverte du plus grand trésor. Il paraît, je regarde pas ça, mais il paraît que c'est la folie de One Piece, je suis des jeunes. Et ce serait l'histoire d'un pirate qui doit trouver un trésor. Et il y a plus de 1000 épisodes. Et les gens attendent chaque semaine un nouvel épisode. Ils disent plus épisode aujourd'hui, je ne sais plus, mon fils m'a dit une vue, ou je ne sais plus, c'est un nom spécial. Je ne suis plus trop à la page. Mais le plus beau des trésors est de loin, c'est l'évangile. La conversion, c'est une découverte. Merci Seigneur. On découvre. Et quand on découvre l'évangile, on est prêt à tout donner. Alors les paraboles, il faut comprendre le sens essentiel. Il ne faut pas aller dans les détails, parce qu'on va leur faire dire des choses qu'ils ne veulent pas dire. Du style, on ne peut pas acheter le salut. Non. Mais on est quand même prêt à tout donner. Et d'ailleurs, c'est notre réflexe quand on entend l'évangile. D'ailleurs, c'est ce que les Juifs ont fait quand ils ont entendu Pierre à la Pentecôte. Que devons-nous faire pour être sauvés? Mais on est prêt à tout, là. On est prêt à tout donner, à tout faire. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre lui dit, mais repentez-vous, convertissez-vous, croyez en Jésus-Christ. C'est gratuit. Alléluia. Alors, on comprend que les deux points communs dans ces deux paraboles, c'est la joie. Celui qui veut, ah, il est heureux, le trésor, ah, je suis heureux, alors, ma maison que je viens de finir de rénover, je la vends. Ma voiture que je viens d'acheter toute option, je la vends. Je vends tout, parce que quel bonheur, j'ai trouvé beaucoup plus. Alléluia. Et c'est vrai que dans les actes des apôtres, à chaque fois qu'il y a des conversions, il y a une grande joie dans la ville. Et quand on est converti, moi je me souviens, j'allais à l'église, je chantais à tue-tête dans la rue, moi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Quel bonheur d'aller à l'église. Où est passée votre joie de venir à l'église? Où est passée votre joie d'être sauvé? Vous êtes triste parce que vous n'avez pas ça, parce que vous n'avez pas ceci, parce que votre boulot c'est difficile, mais vous oubliez que vous êtes sauvé. Vous oubliez que vous avez beaucoup plus que tout ce que vous voulez avoir. Alléluia. Quelle erreur de revenir en arrière, de se, entre guillemets, déconvertir, de se détourner. Retournons-nous. Et là, la joie de la conversion reviendra. Rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. Allez, Matthieu 18, verset 1 à 4. On ne va pas trop s'arrêter à chaque fois. Matthieu 18, verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est qui le meilleur chrétien de notre église là, hein? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Oh, c'est bizarre. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, les petits-enfants, c'est les enfants de la maternelle, hein, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oh. La conversion, c'est devenir un enfant de maternelle. Oh, c'est fort. C'est fort. Si vous ne vous convertissez pas en devenant, se convertir, c'est devenir un enfant. Je voudrais être converti comme ça. Mais on se compare tellement qui est le plus grand, n'est tellement jaloux, envieux, rival. Et ça nous rend triste tout ça. Alors que si on pouvait être comme un petit enfant, amen. Les petits enfants, oh, ils ne sont pas innocents, attention, les petits enfants, des fois, quand on voit comment ils se comportent, voilà. Et Jésus veut dire que quand même, un petit enfant, quand on lui dit quelque chose, bah, il écoute. Nous, on a constaté à l'école de dimanche qu'il y avait des âges plus faciles que d'autres. Il y a une section d'école du dimanche, ça va de 6 à 11, 12 ans, c'est un régal. Les enfants y croient, ils sont émerveillés, voilà. Puis à partir de 11, 12 ans, ça commence à être plus compliqué. Et les animateurs qui s'occupent des 14, 15, 16, 17 ans, là, mais ils ne chantent pas, ils ne veulent pas chanter, etc. Parce que quand on est un petit enfant, on est réceptif. Et je crois que se convertir en devenant un petit enfant, c'est toujours rester réceptif à la parole de Dieu, réceptif aux conseils, réceptif au Seigneur. Amen. Allez, donc 19, versets 23 à 26. Chapitre 19, versets 23 à 26. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. La difficulté de se convertir par rapport au royaume des cieux à cause de l'argent, des richesses, les riches. Pourquoi? Parce que quand on est riche, on est souvent orgueilleux. On croit qu'on est supérieur aux autres, qu'on a réussi parce qu'on est meilleur que les autres. Et d'ailleurs, il y a un glissement terrible et dangereux actuellement. Les jeunes prennent pour modèle des hommes qui sont très rapidement, par Internet ou d'autres choses, devenus très riches, millionnaires, même si ce sont des gens qui sont immoraux ou amoraux. Ce qui compte, c'est la réussite. Quand on réussit dans la vie, on devient fier. Et quand on est fier, on ne peut plus entrer dans le royaume de Dieu. Alors, que Dieu nous garde. Quand nous nous sommes convertis, je ne sais pas, vous, moi, certains étaient dans la misère. Ou jeunes étudiants. Ils ont une chambre d'étudiants de 10 mètres carrés. Et avec le temps, grâce à Dieu, je pense, grâce à Dieu, peut-être vous avez réussi dans la vie. Mais rappelez-vous, quand vous étiez converti, vous n'aviez rien. Là, le Seigneur, c'était tout. Et maintenant qu'on a beaucoup plus, est-ce que parfois, le risque, c'est pas de perdre le Seigneur? Jésus a prévenu, il sera très difficile à des riches d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, je crois que nous ne devons pas souhaiter avoir trop de réussite. Un homme de Dieu dira, ne me donne ni pauvreté ni richesse. De peur que si je n'ai pas assez, je vais voler. Et si j'ai trop, je m'attaque au nom de mon Dieu. Terrible ça. Donc le but, c'est pas de réussir. Le but, c'est de servir le Seigneur avec la joie du Seigneur. Alléluia. Allez, chapitre 21, versets 28 à 32. 21, versets 28 à 32. Voilà la parabole des deux fils. Alors, on va lire simplement le verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. C'est un peu la même idée, c'est que la conversion est plus facile chez les pécheurs, chez les prostituées, que les gens qui se croient bien. Et il me semble que dans notre vie chrétienne, il faut faire attention à la propre justice. Allez, un dernier passage, comme ça, après peut-être on pourra prier. Luc chapitre 9, verset 57. On va dans Luc maintenant. Chapitre 9, verset 57. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous vous rappelez de cette histoire de ce jeune fiancé, vous le connaissez certainement. Il lui envoie un poème et il lui dit, pour toi, je franchirai les montagnes, je traverserai les ravins les plus dangereux. Et puis il y va de strophe en strophe. Puis à la fin, il dit PS, je viendrai te chercher dimanche s'il ne pleut pas. Voyez un peu. Donc ici, quand je dis ça, je te suivrai partout où tu iras. Bon, hein, paroles et paroles, quelqu'un a chanté un jour. Hein. Alors, Luc, chapitre 9, verset 57. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai au futur. Je te suivrai. » Quelqu'un peut-être dit, « Je vais me convertir. Je vais suivre le Seigneur. Je te suivrai. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. J'ai comme titre de ce petit passage, « Comment suivre Jésus ?» Ben, c'est comme ça. C'est-à-dire, la famille, après. Je vais aller enterrer mon père, après. Après. Nos projets, après. Tout, après. D'abord, le Seigneur. Amen. Et quand on se convertit, c'est ça. C'est maintenant, dans ma vie, ce sera d'abord le Seigneur. Et le reste, après. Revenons à ces choses. J'ai dit que se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Et l'Épître aux Hébreux dit au sujet des chrétiens, « Ayant les regards fixés sur Jésus. » Et en fait, c'est rester converti, ça, en fait. On se convertit en se tournant vers Dieu, et après, il faut rester tourné. Il faut rester converti, entre guillemets, il faut rester les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas où nous en sommes. En tout cas, ma prière en tant que pasteur, je suis triste de l'état général des églises et de l'œuvre de Dieu. Et j'aspire à ce qu'une œuvre profonde et nouvelle se fasse et que des hommes et des femmes se convertissent à Dieu. D'une façon comme pour les Thessaloniciens dont on dira, mais là-bas, là-bas, il y a un réveil, oh, c'est un mot ça. Là-bas, il y a des gens qui se sont vraiment convertis. Et pourquoi pas, ici, il y a des chrétiens qui se sont vraiment tournés vers le Seigneur. Que Dieu soit bon. Amen. Amen. Amen.